I'd like to bring a special greeting today to all of those who are going to be part of this wonderful conference coming up in Paris in 2014. I'm excited about being part of the team that will be coming to minister to you, and I believe that God will stir your heart to love Jesus Christ more than you ever have before. That's what I'm believing for. The Lord's going to bless, and He's going to strengthen. He's going to set people free. I believe He's going to give many a new vision for ministry into the future, an understanding of some scriptural things that perhaps have not been as understood as they should be in our generation. I so look forward to being with you. I believe it's going to be a time of great rejoicing together. God bless you. I'll see you then.
Amen, Seigneur. Amen. Et amen. Gloire à Jésus. Je vous invite ce matin à ouvrir avec moi nos Bibles dans l'Évangile de Jean. Nous y retournons depuis le début de l'année. Vous savez que nous suivons pas après pas cet Évangile. Quoiqu'aujourd'hui nous faisons un petit pas en avant, il se trouve que je vais garder la fin du chapitre 4 pour la conférence Paris pour Christ. Ça tombe très bien. Et nous allons aller au chapitre 5 et nous retournons à Jérusalem, avec Jésus, Jean, chapitre 5, versets 1 à 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Et sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendait le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Mais là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Et Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Et le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. » Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Encore une fois, avec l'évangile de Jean, il est question d'eau. L'eau transformée en vin à Cana, l'eau du puits de Jacob en Samarie, et maintenant l'eau de la piscine de Bethesda, dans laquelle, et dans des conditions tout à fait particulières, un malade pouvait être guéri en s'y plongeant. Enfin, c'est ce qu'on disait. Mais dans cette histoire, il est aussi question d'un homme malade depuis très longtemps, 38 ans, c'est une vie, hein, toute une vie de maladie. Un homme qui est captif de sa maladie, mais qui est aussi captif de ce que je vais appeler son paradigme religieux, c'est-à-dire sa façon de penser, notamment les miracles. Mais c'est aussi un homme seul, il le dit, je n'ai personne. Un homme seul, sans personne pour l'aider, et un homme qui finalement va blâmer les autres pour sa situation. Et nous le verrons, ça sera le point principal de ce message, un homme surtout qui se trouve au mauvais endroit. Et c'est là que Jésus intervient, et cette histoire c'est encore l'histoire d'une rencontre. Après celle de Jésus avec Nicodème, après celle de Jésus avec la Samaritaine, voilà donc l'histoire de la rencontre de Jésus avec ce paralytique de la piscine de Bethesda à Jérusalem. Et là, encore une fois, le Seigneur manifesta sa gloire, sa puissance, mais surtout sa miséricorde et sa compassion. Mais non pas une compassion à la façon des hommes, plein de condescendance. Non, la compassion selon Dieu, la compassion puissante, la compassion créatrice de vie. Et puis ce texte nous offre la possibilité à nous de nous interroger sur certaines réalités que nous cherchons parfois à dissimuler. Mes frères et sœurs, beaucoup d'entre nous vivent leur vie chrétienne comme paralysés. Paralysé dans une peine, une souffrance, une épreuve, peut-être depuis 38 ans, je ne sais pas, mais en tout cas peut-être depuis longtemps, et ressassant sans cesse leur désespoir, leur frustration sur les bords de leur piscine de Bethesda. Et souvent, ils s'enferment dans des schémas de pensée personnelle, soupirant après un hypothétique mouvement spirituel particulier qui semble toujours leur échapper et profiter à d'autres. Et au bout du compte, ces frères, ces sœurs stationnent spirituellement au mauvais endroit. Et au lieu de se réjouir dans la présence de Dieu, ils demeurent à Bethesda. Mais ce matin, c'est la fête et Jésus est au milieu de nous. Ce matin, le Seigneur de la compassion, de la miséricorde et de la grâce est au milieu de nous. Il a de la puissance de nous libérer de nos maladies et de nos systèmes de pensée pour nous conduire jusque dans la maison du Père. Mon premier point ce matin est de vous parler d'une maison à côté du temple. Il existait à Jérusalem, à côté du temple, une maison. En fait, c'était une piscine. Bethesda, maison de la compassion. Et pour ceux qui connaissent Jérusalem, elle se situe dans cette église, l'église Sainte-Anne. En 1888, les archéologues ont fait des fouilles et ils ont exhumé des bassins, les bassins de Bethesda et des portiques. Et ils ont même mis en évidence une fresque sur laquelle est représenté un ange qui vient remuer l'eau. Maintenant, n'y voyez pas là un bassin olympique avec plongeoir et plage pour bronzer. Car avant toute autre chose, la piscine de Bethesda était un réservoir d'eau alimenté par deux sources provenant du Cédron, la rivière qui coule juste en bas à Jérusalem. Aujourd'hui, c'est le lieu des chats à Jérusalem. Et cette piscine était donc située à côté du temple, juste à côté du temple, et d'un endroit que, suivant les versions, on appelait la porte des brebis ou d'autres encore le marché des brebis. Et c'était par ce lieu que les bergers, les éleveurs, amenaient à Jérusalem leurs troupeaux pour les vendre. Et ils les faisaient passer par cette porte de brebis qui donnait directement accès au pâturage de Judée. Et en rentrant par cette porte des brebis, à leur gauche, il y avait la montagne de Morija sur laquelle se dressait le temple, et à leur droite, il y avait là le marché aux bestiaux, et particulièrement ce lieu, Bethesda, qui dans certaines traditions, et je vais dire traductions, traditions catholiques qui remontent à Jérôme et la Vulgate, est appelée piscine probatique. Qu'est-ce que c'est une piscine probatique ? C'est l'endroit où on nettoyait les bêtes, arrivant du désert et des pâturages, avant de les vendre, on les nettoyait dans cette piscine. Et à quoi servaient ces bêtes ? Certaines allaient être vendues pour être mangées, mais la plupart d'entre elles étaient ensuite amenées au temple voisin pour être offertes en sacrifice au Seigneur. Et voilà donc ce qu'était Bethesda. Mais ce n'est pas tout. À cause de cette histoire d'un ange descendant de temps à autre pour remuer l'eau du réservoir, une foule de gens misérables s'agglutinait sur les bords de la piscine. C'était toute la misère de la condition humaine qui était là. Parce qu'on se disait, de bouche à oreille, que lorsque l'eau frémissait, le premier qui y plongerait serait guéri instantanément de sa maladie, quelle que soit sa maladie. Légende, fait réel, je ne trancherai pas. D'ailleurs, la plupart des traducteurs ne tranchent pas parce que dans vos Bibles, beaucoup des Bibles, ce verset est entrecroché. On ne sait pas trop s'il est authentique ou s'il a été rajouté plus tard. Parce que dans beaucoup de versions anciennes, des plus anciens manuscrits, il n'y est pas. En tout cas, ni Jean ni Jésus n'ont parlé de cette chose-là. Mais il devait y avoir certainement une légende qui traînait pour dire que tous ces gens soient là réunis autour de cette piscine. Bethesda offrait donc un large et saisissant panorama de la souffrance humaine. Comme Jean l'écrit, il y avait des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, autrement dit, des cas désespérés pour qui aucun secours médical ne pouvait être apporté, des gens pour qui la société n'avait pas ou plus de solution ni de réponse. Et la vie des gens de Bethesda se résumait alors à ce verbe « attendre ». Attendre. Non pas attendre une opération médicale, ni un traitement, ni un médicament, mais leur seul et unique espoir était un miracle. Sachant que certaines assemblées s'appellent Bethesda, c'est avec respect que je dis cela, l'Église n'est pas Bethesda. Car Bethesda n'était pas dans le temple, mais c'était la maison à côté du temple. Et ceux qui étaient à Bethesda n'avaient généralement pas le droit de rentrer dans le temple. Et mes frères et sœurs, nous devons veiller à ce que l'Église ne soit pas une Bethesda version évangile de Jean, sous les portiques desquels viendraient s'agglutiner des gens blessés par la vie ou le péché, incapables d'accéder à une véritable relation avec Dieu en Jésus-Christ et espérant que leur sort, un jour, le sort leur soit favorable. Non, l'Église n'est pas une cour des miracles où des anges viendraient de temps en temps agiter l'air en battant des ailes. Le miracle n'est pas une loterie, mais une grâce à vivre dès aujourd'hui. Je ne veux pas vous offenser dans ce que je dis, ou je ne veux pas que vous me trouviez manquant de compassion, ce n'est pas ce que je dis. L'Église doit accueillir ceux qui sont malades, paralysés, boiteux, physiquement ou de la vie. Mais nous n'avons pas vocation à être une Bethesda où les gens sont comme scotchés dans leur vie. Bethesda n'était pas le temple. Bethesda était la maison à côté du temple. Dieu n'a pas prévu que ses enfants demeurent à Bethesda, il nous attend dans sa maison. Et c'est en cela que je dis que l'Église ne doit pas être une Bethesda. Et il est terrible alors de constater que, malgré tout, c'est la situation de beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous qui ont commencé à proclamer leur foi en Jésus-Christ, qui croient que la parole nous assure que par Jésus-Christ, nous sommes rendus réellement libres, qui croient que Christ a tout accompli pour nous et qui pourtant vivent encore aveugles, boiteux et paralysés. Ils sont comme stagnants à Bethesda. Ils sont coincés dans un endroit particulier de leur vie et peut-être même pour une longue période sans aucune perspective d'avenir. Ils sont paralysés au point de ne plus rien entreprendre, de ne plus rien concevoir pour demain, sinon que d'attendre, d'attendre. Et frères et sœurs, l'Église, ce n'est pas Bethesda. L'Église, c'est le temple. Et nous sommes appelés à rentrer dans le temple. Mais trop d'entre nous se languissent, meurent de faim, de souffrance sous les portiques de Bethesda. Maintenant, représentez-vous la situation de ces pauvres hommes. Ils doivent déjà se disputer les premières places, les plus proches de l'eau. Puis imaginez le rush aux premières ondées. Peut-être que certains ont quelques parents ou amis qui peuvent les prendre et les jeter dans l'eau. D'autres ont peut-être quelques moyens financiers et peuvent payer des serviteurs. Mais d'autres, certainement la plupart, sont seuls et n'ont personne pour les aider. Et pour les plus faibles, les plus malades, les plus seuls, la déception de ne jamais être le premier, toujours quelqu'un qui va plus vite. Et où était la miséricorde dans tout cela? Où était la compassion? Et quelle miséricorde ces gens recevaient de ceux du temple? Des gens du temple, non seulement des pèlerins, mais aussi des lévites, des sacrificateurs. Ceux-ci étaient plus soucieux de vérifier la qualité des animaux que de la santé des hommes qui étaient allongés dans ce lieu. Ils étaient plus soucieux du nettoyage des bêtes sélectionnées que de soulager les souffrances de ceux qui gisaient là. Finalement, comme ces bêtes rejetées qui ne pouvaient être offertes en sacrifice au Seigneur parce qu'imparfaites selon les critères établis par les sacrificateurs, eh bien ces hommes ne pouvaient entrer dans le temple. Ils étaient rejetés, ils étaient comme déclassés. Ils vivaient gisant, abandonnés à Bethesda. Et leur seule espérance, c'est un jour d'être jetés dans l'eau afin d'être guéris. C'est très intéressant le verbe guéri que Jésus emploie, parce que ce n'est pas le verbe, tout à fait le même verbe qu'il emploie dans les autres situations. C'est un verbe qui nous dit être rendu sain, S-A-I-N, hygiène, hygiès, le verbe. Et il y a là une idée de droiture, comme si finalement, c'est, on lui dit, quand il va lui parler de guérison, c'est de retrouver, de redevenir sain pour accéder aux normes qui lui permettront de rentrer dans le temple. Il y avait donc un lieu à côté du temple, appelé la maison de miséricorde Bethesda, par laquelle transitaient les brebis pour être lavées avant d'être amenées au temple, et dans laquelle stagnaient des hommes attendant que quelqu'un veuille bien les jeter dans l'eau pour être guéris. Il y a vraiment là quelque chose de paradoxal. Alors maintenant, posons-nous cette question. Que voulons-nous ? Attendre un mouvement ou être guéri ? Dans cette maison à côté du temple, Jean dit que les hommes attendaient un mouvement de l'eau. Soyons honnêtes, attendre un mouvement, c'est la condition de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Beaucoup de gens vont à l'église attendant quelques grandes émotions qui, à coup sûr, leur prouveront qu'ils sont bien dans la présence de Dieu. Est-ce qu'un ange va descendre aujourd'hui ? J'attends un mouvement. Le truc, c'est qu'en attendant, ils refusent de s'engager. Trop d'entre nous ne font pas de progrès dans la vie parce qu'ils attendent, ils attendent, ils attendent, et attendent, et attendent, et attendent. Quand tout ce que nous devons faire, c'est de placer notre foi et dans notre confiance en celui qui nous a appelé Jésus-Christ. La question est donc, mais qu'attendez-vous ? Qui attendez-vous ? Et rappelez-vous ceci, attendre ne résoudra pas votre problème, puisque l'homme dont il est question ensuite a attendu pendant 38 ans. J'espère que vous n'attendrez pas 38 ans. Et puis Jésus monta à Jérusalem pour une fête, et il rentra par la porte appelée porte des brebis, image saisissante de celui que Jean a appelé l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu arrive à Jérusalem, il passe par la porte des brebis. Avant de monter dans la maison de son père, lui le seigneur du temple, au lieu d'aller à gauche, il va à droite, ça c'est réel, là. À droite, en entrant par la porte des brebis, ou porte Saint-Étienne, il y a la piscine de Bethesda. Il passe par Bethesda. Lui, l'anneau de Dieu n'a pas besoin d'être lavé. Il est pur. Il est saint. Mais lui, l'anneau de Dieu, est aussi le Seigneur de la compassion. Et il vient dans ce lieu, et j'imagine qu'il a dû considérer ce lieu, cette maison de compassion, de miséricorde, comme il a pu considérer ce qui s'est passé dans le temple, Jean chapitre 2, nous l'avons vu. Et là, il a dû considérer toute la situation, à la fois la souffrance des hommes présents qu'il pouvait mesurer dans son cœur, sentir dans son cœur, mais aussi, je pense qu'il a dû être interpellé par le paradoxe. Le paradoxe entre cette souffrance et la signification de ce lieu, maison de compassion. Alors Jésus est là près de la piscine, et il voit toute la foule. Et puis, bizarrement, il y a quelqu'un qui retient son attention en particulier. Il vit un homme couché sur son lit. N'imaginez pas un lit avec un sommier, tout ce qu'il faut. Hein. Il avait peut-être guère mieux que ça. Et puis, il sait, je ne sais pas si on lui a dit ou s'il sait par connaissance divine, il sait que cet homme est malade là depuis très longtemps, depuis 38 ans. Alors il va le trouver pour lui poser quand même cette drôle de question. Veux-tu être guéri ? On va lui dire, Seigneur, cet homme est malade depuis très longtemps. Et puis, s'il se trouve à cet endroit de Jérusalem, la piscine de Bethesda, c'est bien qu'il espère qu'un jour, malgré tout, à cause d'un concours de circonstances tout à fait particulier, il puisse accéder à l'eau le premier. Ça nous paraît évident qu'il veut être guéri. Mais ce matin, c'est à toi que Jésus adresse cette question. C'est à toi que, mon frère, ma sœur, que Jésus pose cette question. Veux-tu être guéri. Et là, je veux vraiment toucher le cœur de mon message. Ce message, c'est un message pour l'Église. Frères et sœurs, nous sommes passés par la porte des brebis. Nous sommes passés par la porte des brebis. Nous avons cru en Jésus-Christ. Nous le suivons, c'est notre berger. Et nous voulons monter à la maison de notre Dieu. Mais il se trouve qu'en passant par la porte des brebis, il y a la maison de miséricorde. Et nous savons que le Seigneur est un Dieu de miséricorde. Et nous sommes là, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes à cette piscine de Bethesda, soupirant après être lavés. Car nous ne pouvons pas nous le cacher les uns aux autres. Ce n'est pas le fait d'être passé par la porte des brebis qui a tout guéri intérieurement. Les blessures sont encore là, les blessures de la vie. Parfois même la puissance du péché est encore agissante dans les cœurs des croyants, même s'ils veulent de tous leurs fibres s'attacher au Seigneur. Et avant de pleinement jouir de ce que le Seigneur a réservé pour nous dans la maison de son Père, dans la maison du Temple, nous sommes là à la piscine de Bethesda en disant « Seigneur, nous avons besoin d'être lavés, nous avons besoin d'être guéris, nous avons besoin d'une nouvelle hygiène de vie, hygiès », c'est le verbe que Jésus a employé. Et le Seigneur s'adresse à nous. Pourquoi ? Parce qu'il sait que beaucoup de croyants demeurent à Bethesda. Parfois des années, des dizaines d'années. Et pour être honnête, il passerait au milieu de nous, lui qui voit toutes choses, qui connaît toutes choses jusqu'au plus profond de nos cœurs. Lui sait si tu te trouves à Bethesda ou si tu te trouves dans la maison qui est de l'autre côté de la rue, c'est-à-dire le temple. Et si toi, tu te dis, mais je suis quelqu'un de Bethesda, alors le Seigneur te dit, veux-tu être guéri ? Et s'il te pose cette question, c'est parce qu'il y a cette autre question qui est comme entre parenthèses, mais qui est là, résonnant à nos oreilles, à notre cœur. Où veux-tu attendre ? Veux-tu être guéri ou veux-tu encore attendre ? Et certainement que si Jésus passait là, au milieu de nous, il le fait d'une manière spirituelle et il doit certainement s'interroger quand il en voit plusieurs attendre. Attendre qu'il résolve des problèmes qu'il a déjà résolus il y a 2000 ans. Attendre une délivrance, une guérison, un renouvellement, alors qu'il a déjà proclamé la liberté pour les prisonniers, le recouvrement de la vue aux aveugles, la liberté pour les opprimés, et également annoncé une année de grâce et de faveur de la part du Seigneur. Et il se demande ce que nous attendons. Et si nous disons, nous attendons un mouvement ? Oh, bien sûr, pas le mouvement d'un ange. Quoique, il y a quelque temps, c'est ce qui est arrivé. Un mouvement de quoi attendons-nous ? Oh, pour certains, ils vont attendre un mouvement de guérison spirituelle, un mouvement de délivrance, un mouvement de puissance, un mouvement de réveil. Nous attendons un mouvement, Seigneur. Et Jésus nous dit, mais écoute, j'ai tout accompli. J'ai tout accompli. Pour que tu ne demeures pas à la piscine de Bethesda, pour que tu ne sois pas là, laissant passer, laissant filer les mois et les années, attendant quelque chose. Et généralement, ce qui se passe, c'est quand on attend, c'est toujours les autres qui reçoivent. Ah ! Moi, ça fait des années que je suis dans l'église. Lui, il vient de rentrer, elle était guérie. Moi, ça fait des années que je prie pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Lui, à peine sorti de l'eau du baptême, ça y est. Ça nous échappe toujours, mais je suis passé à côté du mouvement. Jésus nous dit, j'ai tout accompli, veux-tu être guéri ? Et c'est la question que Jésus nous adresse aujourd'hui. Question étonnante. Et puis réponse déconcertante de la part de ce bonhomme. Le brave homme ne répondit pas directement à la question de Jésus, il lui a dit ni oui ni non. Oh, mais la seule chose qu'il a dit, c'est qu'il va défendre son système. Malgré sa non-guérison, il défend son système. Le problème, ce n'est pas d'attendre le mouvement de l'eau. Ce n'est pas d'espérer qu'un ange descende. Non, le problème, c'est les autres. Le problème, c'est qu'il n'a personne pour l'aider, le porter à l'eau et le jeter dans l'eau. Et il y en a toujours d'autres qui finissent par y descendre avant lui. Et ça, c'est souvent quelque chose qui se passe. Non, on ne remet pas en cause nos façons de penser, nos modèles religieux. Oh, ça, c'est la bonne manière. Le problème, c'est les autres. Je vais y revenir dans un instant. Et à force de dire le problème, c'est les autres, d'ailleurs, on finit par blâmer les autres. Il commence par dire « je n'ai personne », et puis ensuite il dit « pendant que j'y vais, un autre descend avant moi ». Et c'est là un comportement que nous avons aussi. Je n'ai personne, personne pour m'aider. Je vais peut-être pousser un peu le bouchon, mais on a l'impression que dans la vie chrétienne, voilà, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit là, qui soit là, qui nous tende la main. S'il n'y a pas quelqu'un avec nous, s'il n'y a pas quelqu'un qui nous tire en avant, on n'avance pas. Êtes-vous en train de blâmer quelqu'un parce que vous êtes comme scotché sur les bords de la piscine de Bethesda? Vous savez, en blâmant, ça nous permet de nous excuser. Quelle excuse donnez-vous pour votre manque de progrès avec Dieu ou dans la vie? Certains vont blâmer leur famille, certains vont blâmer leur patron, leur pasteur, leur église, le gouvernement, l'Europe. Vous pourrez la blâmer dans quelques semaines. On peut faire ça. Puis, le brave homme a dû se dire, mais tiens, en voilà un qui s'intéresse à moi. Peut-être a-t-il l'intention de me donner un coup de main. Pourquoi est-ce qu'il ne resterait pas à côté de moi là? J'ai de la place sur mon lit. Hein, il pourrait rester à côté de moi, attendre que l'eau frémisse. Comme ça, quand ça bouillonne là-bas, vite, il me prend, il est costaud, il est fort, ça va. Il pourra me jeter dans l'eau et comme ça, au moins, je serai guéri. Vous savez que ça nous arrive de faire ça? On veut amener Dieu dans nos schémas de pensée religieux. Il faut que la bénédiction soit comme ça, le miracle c'est comme ça, j'attends tel mouvement. Seigneur, viens avec moi. Ce n'est pas la manière de faire. Et ce que Jésus veut faire surtout, c'est amener cet homme à se détourner de la piscine. Regarde-moi l'eau. Regarde-moi. Regarde-moi, lui dit Jésus. Il veut capter son attention. Il veut l'amener à le regarder à lui, le Seigneur de la compassion. La compassion n'est pas dans la piscine de Bethesda, la compassion est dans Jésus. Mais la compassion, selon Jésus, n'a rien à voir avec notre façon, des fois, de concevoir la compassion. Pour nous, la compassion, c'est « Oh, je suis là avec toi, je te frappe dans le dos. » Oh, ça, c'est de la compassion, la miséricorde. On va pleurer ensemble, je vais te porter, je vais te soutenir. Ça, c'est de la compassion. Oh oui, celui-là, il est compatissant, il est miséricordieux. Le Seigneur n'a rien fait de ça. Le Seigneur de compassion manifeste sa compassion en mettant le bonhomme face à ses responsabilités. Et il le met face au défi de quelque chose de nouveau, l'obéissance et l'action de la foi. Et ce que Jésus a fait envers cet homme pourrait nous paraître un peu scandaleux. Jésus n'a ni prié pour lui, il n'a même pas voulu s'asseoir avec lui pour lui dire « je serai là avec toi ». Il n'y a même pas imposé les mains, il n'a même pas tendu la main. Mais il lui a dit d'agir. Il lui a ordonné d'agir. Séance tenante et tout seul. Alors toi, mon ami, mon frère, ma sœur, qui demeure à Bethesda, ton Bethesda, qui n'est pas la maison de Dieu, mais qui est la maison à côté de la maison de Dieu, le Seigneur de la compassion te voit. Oui, il te voit. Il connaît ta situation. Et il veut exercer sa miséricorde envers toi. Jésus est plein de grâce. Mais il ne va pas s'asseoir avec toi sur ton tapis. Il ne va pas te tendre la main. Mais ce matin, il t'ordonne d'agir. Il t'ordonne d'agir. Et dans ce lieu de Bethesda, Jésus démontra qu'il était la véritable maison de la compassion et de la grâce. Il était le berger qui se souciait non pas des animaux destinés au sacrifice, mais des hommes déclassés, rejetés, oubliés. Mais toutefois, il n'allait pas les jeter dans l'eau. Je veux dire, il allait les doucher par sa parole. parce que cet homme, ce jour-là, a pris une bonne douche de la parole de Jésus-Christ. Et le Seigneur lui a dit ceci, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et cet homme, maintenant, faisait face à la plus importante décision de sa vie, de toutes ces douloureuses années, 38 ans de douleur. Il venait d'entendre une parole qui pouvait changer, faire basculer sa vie. Mais elle le plaçait face à ce défi. Lève-toi, par la foi, sois rétabli ou reste étendu là à t'apitoyer sur toi-même. Entendant ça, l'homme aurait pu rester étendu près de la piscine, incrédule, refusant de bouger, pensant en lui-même, mais ça ne peut pas marcher ça. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça que ça se passe à Bethesda. À Bethesda, d'abord, on nous plonge dans l'eau et ensuite on marche. Lui, il nous dit d'abord de me lever, me marcher. C'est pas comme ça qu'on fait. Et puis, quel drôle de compassion. Ne me tend même pas la main. Il ne m'encourage même pas. Il me donne des ordres. Lève-toi. Je ne sais pas ce qui a pu passer, vous savez, en quelques instants. Et tant de questions qui peuvent venir en nous. Ce qui est clair, c'est que Jésus ne pouvait rien faire contre la volonté de cet homme. Maintenant que l'homme avait entendu la parole du Seigneur, il devait croire que le temps de sa délivrance était arrivé. C'était maintenant ou jamais. Et ce matin, mon frère, ma sœur, toi qui es scotché à ton Bethesda, c'est la même parole que Jésus t'adresse. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri ou veux-tu attendre? Veux-tu attendre un mouvement? Mais je vais te dire, Jésus ne sera pas dans le mouvement. Mais ce matin, il est là, au milieu de nous, et il te dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Et c'est à toi de répondre. Et c'est à toi d'agir selon ce qu'il te donne. Et il t'ordonne de te lever. Il te donne de prendre ton lit. Et il t'ordonne de marcher. Je vais vous dire, quand c'est un homme comme moi qui le dit, c'est une chose. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui vient le dire à nos cœurs, ça change tout. Et pour ceux qui ont entendu un jour la parole de Jésus, nous savons que c'est une parole qui bouscule. Nous savons que c'est une parole qui renverse tous les raisonnements religieux. Nous savons que c'est une parole créatrice de vie. C'est une parole de puissance. Avez-vous un jour été transpercé par la parole de Jésus? Eh bien, ce matin, je crois que le Seigneur est capable de transpercer le cœur d'un homme, d'une femme. Il est capable de bouleverser ta vie, de renverser tous tes raisonnements, tous tes schémas religieux. Toi qui dis, j'attends ceci, j'attends la visite de tel homme, j'attends telle action. Le Seigneur te dit, il est là au milieu de nous. Il a tout accompli. Veux-tu être guéri ou veux-tu attendre? Si tu reçois la parole du Seigneur, ce matin, si tu l'entends, alors tu sais ce que tu as à faire. Tu es exactement dans la position de cet homme. Soit tu restes couché, soit tu te lèves. Mais Jésus ne va pas te tendre la main. Il t'a parlé. Et la parole de Jésus est suffisante. Et le Seigneur ne lui dit pas donc « je vais t'aider », mais « lève-toi ». Lève-toi. Ne reste pas couché dans ton besoin, n'attends pas l'aide de quelqu'un, ne crois pas que tu es un cas désespéré, ne crois pas qu'il n'y a plus d'espoir ni d'avenir pour toi. Quand Jésus parle, tout est possible. Oh, je ne dis pas que cet homme a cru que Jésus était le Messie, loin de là. En tout cas, il a oublié la parole de Jésus. Je pense qu'il a dû recevoir cette parole qui a été presque comme une gifle pour lui. Pouf, il a pris ça en pleine figure. Et le fait de se lever était un acte de foi. Pour cet homme cloué là, sur son tapis depuis 38 ans, se lever est un acte de foi. Lève-toi et ramasse ton lit, toi-même. Je ne vais pas t'aider, tu le fais tout seul. Tu ramasses ton lit, personne ne va venir t'aider. Tu le fais tout seul, tu le fais avec ma parole. Tu prends ton lit et tu marches. Tu prends ton lit et tu marches. Ce lit représente toute la vie passée de cet homme. Comme le manteau de Bartimée représentait toute sa déchéance. Comme la cruche de la Samaritaine représentait tout ce qui limitait sa vie. Ce lit, pour le paralytique, c'est ce qui Chevray rendait sa vie un peu plus supportable, malgré la condition qui était la sienne. Ce lit, c'était un peu aussi toutes les excuses pour ne pas marcher dans la victoire. Mais cet homme s'est levé et il a pris son lit. Bartimée a laissé son manteau quand Jésus l'a appelé. La femme samaritaine, rappelez-vous, qu'a-t-elle fait avec sa cruche ? Elle a laissé sa cruche. Et qu'a fait le paralytique ? Il a pris son lit et il a marché. Et pour cet homme, prendre son lit, c'était un signe de victoire. C'était un signe de victoire sur toutes ces années de souffrance. Le signe de sa délivrance. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, non seulement lève-toi, mais prends tout ce qui symbolisait ces années de souffrance et brandis-le comme un trophée. Brandis-le comme un trophée. Tu es victorieux en Jésus. Tu es donc devant toi face à cette décision. Soit attendre un mouvement hypothétique de l'eau, soit répondre à l'appel de Jésus, agir en te levant, en prenant ton lit et en marchant. Frères et sœurs, je crains bien que dans les églises et même dans la nôtre, des frères, des sœurs, je disais que ce message tout à l'heure, c'était pour, avant tout pour des chrétiens. Il y a une forme d'évangélisation parce qu'on est dans l'évangile de Jean, mais attention, l'évangile est aussi pour les chrétiens. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes bloqués à Bethesda. Vous êtes passés par la porte des brebis. Vous êtes peut-être au milieu de nous, d'accord. Mais vous n'êtes pas pleinement spirituellement avec nous. Parce qu'à un moment, vous avez pris le mauvais carrefour. Au lieu de partir à gauche pour monter à la montagne du temple, vous êtes parti à droite, vous êtes allé à la piscine de Bethesda. Oh, je vais vous dire, nous avons peut-être besoin, je vous disais tout à l'heure, nous avons tous besoin de passer par la piscine de Bethesda pour nous laver, parce que le Seigneur veut nous laver, nous restaurer, nous renouveler. Oui, mais c'est juste un lieu de transition. Mais certains y ont établi leur demeure. Ils sont là, et après des mois et des années de vie chrétienne, ils sont toujours dans la même situation de souffrance, d'oppression spirituelle, de tentation non réglée. Et finalement, ils se sont créés un petit matelas religieux, un petit confort pour quand même faciliter la vie. Et puis, ils se sont fabriqués des tas d'histoires. Un jour, il y aura un mouvement de l'eau. Un jour, un ange descendra. Un jour, un homme de Dieu viendra. Et un ange, il posera ses mains sur moi. Et je serai guéri. Et ils attendent. Et il y en a toujours un autre qui passe avant eux. Mais tout comme les bêtes ne faisaient que passer à Bethesda pour être lavées et ensuite monter au temple, voilà quel était le projet du Seigneur. Nous passons la porte des brebis et le Seigneur sait que ce n'est pas facile pour nous de rentrer directement dans la maison du Père. C'est vrai que dans la maison du Père, ce n'est pas que la loi s'applique. Mais dans l'appréciation spirituelle de la loi, on rentre dans la maison du Père qu'en étant pleinement restauré. Alors le Seigneur a prévu qu'il y ait cette maison de compassion, maison de restauration, maison de renouvellement. Et nous y passons, mais nous ne faisons qu'y transiter pour ensuite rentrer dans la maison de notre Dieu. Mais bien sûr, le problème, c'est quand vous restez scotché, enfermé dans les raisonnements, incapable de rentrer dans les bénédictions que Jésus a acquises pour toi. Et le Seigneur, ce matin, vient. Il vient pour te guérir. Il vient pour que tu puisses te lever. Il vient pour que tu puisses quitter Bethesda, franchir la rue et monter à la montagne du temple. C'est ce que fera ce malade dans la suite du passage. C'est ce qu'a fait le boiteux de la belle porte. Lui, il n'était pas à Bethesda, il était placé à l'entrée du temple. Lui aussi ne pouvait pas rentrer dans le temple. Mais lorsque Pierre et Jean sont montés, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et il rentra marchant, sautant et louant Dieu dans la maison du Seigneur. Et là, il a dû retrouver le paralytique de la piscine de Bethesda que Jésus avait guéri quelques années plus tôt. Alors le Seigneur Jésus, ce matin, vient te rencontrer à ton Bethesda. À ton Bethesda. Au lieu où tu stagnes. Il y a un verbe terrible qui est là depuis ce matin, depuis la première prédication. J'ose à peine le dire. Mais je ne sais pas, à chaque fois que je dis ça, il revient ce verbe. Je dis, Seigneur, je ne peux pas dire ce verbe. Je dis, ça doit être ma pensée. Je veux croire que c'est ma pensée. Je vais vous dire ce verbe. Comme ça, je l'aurais dit, ça me fera du bien. Mais sur la vidéo, ce n'est pas joli, excusez-moi. Et pardonnez-moi, je le dis avec un grand respect, mais parfois, je me mentis, ce n'est pas vrai. Pourrir. Pourrir. Une vie chrétienne qui se décompose. Là, à Bethesda. L'image est saisissante, pardonnez-moi, elle est violente. Mais quand je considère ce que parfois certains frères et sœurs deviennent avec les années, c'est vraiment avec une grande tristesse que je dis ça. Mais Jésus n'est pas venu donner sa vie pour ça. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Alors il vient à ton Bethesda ce matin, à ce lieu de souffrance, à ce lieu de peine que tu portes depuis tant d'années. Et Jésus vient, il se dit, alors, quelle est ta piscine ce matin? Quelle est ta piscine? Quel est le lieu où tu es là comme paralysé, enfermé? Et puis il nous dit, mais quel frémissement attends-tu? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu regardes? Jésus nous dit, regarde-moi, regarde à Jésus. Qui blâmes-tu pour ta situation? Sur quel lit es-tu allongé? Ce qui est certain, c'est que ce matin, le Seigneur ne voudrait pas te laisser derrière lui à Bethesda. Il vient et il nous regarde individuellement. Notez bien, il y avait là une foule de personnes. On pense plusieurs centaines de personnes. Jésus s'est adressé à un homme en particulier. Il est arrivé à Jésus de guérir des foules. Mais là, il a guéri un homme en particulier. Et ce matin, c'est à toi en particulier. Ce n'est pas à la foule de l'Église, mais c'est à chacun en particulier. Tu sais si tu es de ceux de Bethesda ou si tu es de ceux du Temple. Mais ce que c'est certain, c'est que le Seigneur veut que tu sois un homme, une femme du Temple. Il nous a sauvés non pas pour que nous passions notre vie à Bethesda, mais pour que nous passions notre vie dans la maison du Père. Regardez le contraste saisissant. Les deux hommes passent ensemble la maison, la porte des brebis, et tous les deux passent par Bethesda. L'un comprend l'amour de Christ, saisit ce que Dieu veut faire dans sa vie, et il rentre ensuite, traverse la rue, monte à la maison du temple, mon image est spirituelle, et là, il se réjouit, il danse, il loue le Seigneur, c'est sa vie, et à côté de lui, il y a son frère. Parce que c'est son frère, et passé par la même porte, mais il demeure comme stagnant à Bethesda, il n'arrive pas à s'en sortir. Les années passent, il n'arrive pas à s'en sortir. Il ne connaît pas la joie du temple, il ne connaît pas la joie de la maison de Dieu. Il ne connaît que les souffrances de Bethesda. Mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. Dieu veut nous amener dans sa maison. Ce matin, le Seigneur ne te tend pas la main. Ce matin, le Seigneur ne va pas taper dans ton dos. Jésus vient au milieu de nous avec cette question tranchante. Veux-tu être guéri? Veux-tu être rendu saint? Alors, cesse de blâmer les autres, cesse d'attendre, mais maintenant, lève-toi, prends ton lit, prends à bras-le-corps ta situation et marche. Et rentre dans la maison du Père. Ce que je dis, je le dis. Ce qui est important, c'est que ce que le Saint-Esprit te dit maintenant, j'essaie de t'encourager dans la foi. J'essaie de partager ce message. Et vraiment, le Seigneur m'a parlé fortement à travers ces deux maisons, côte à côte, mais si différentes l'une de l'autre. Et le Seigneur veut te sortir de Bethesda ce matin. Si quelqu'un entend la parole de Dieu maintenant, plus que la mienne c'est qu'une parole d'homme, mais si tu entends la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui s'approche de toi, là, dans ta situation, Et si tu entends le Seigneur te parler, veux-tu te lever maintenant? Vas-tu te lever maintenant? Et vas-tu dire, Seigneur, je prends mon lit, je prends ma situation telle qu'elle est, et je marche. Parce que je veux monter dans ta maison. Je veux monter dans ta maison. Je ne veux plus rester à Bethesda. Il y a trop longtemps que je suis là. Y a-t-il quelqu'un qui doit se lever? Y a-t-il quelqu'un encore qui doit se lever maintenant? Y a-t-il quelqu'un qui entend la parole du Seigneur? Y a-t-il quelqu'un qui dit, fini Bethesda, je veux rentrer dans la maison de mon Père. Je ne suis pas une brebis déclassée. Je ne suis pas une brebis sans valeur. Je suis aimé de Jésus-Christ. Il ne m'a pas sauvé pour rester là. Il m'a sauvé pour m'amener dans la maison de son Père. Y a-t-il quelqu'un qui doit encore se lever? Tu entends la parole de Jésus. Lève-toi, prends ton lit et marche. Seigneur, maintenant, je te prie de relâcher ta puissance. Seigneur, par ta grâce et ton esprit, j'ai prêché ta parole, ce que tu as mis sur mon cœur, ce que tu m'as montré à travers ce passage. Seigneur, ce que je demande ce matin, c'est que tu vides la piscine de Bethesda. C'est que tu la vides de ces hommes et de ces femmes qui sont là devant toi et que tu remplisses la maison du Père. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour qu'à travers une seule parole, nous le savons, un seul mot de toi suffit. Et à l'instant même, quelqu'un se lève, prend la victoire sur son lit et marche. Seigneur, délivre-le. Toi qui as tout accompli il y a 2000 ans pour nous, nous n'avons pas à attendre un mouvement. Nous n'avons pas à attendre un mouvement angélique. Nous n'avons pas à attendre un mouvement de quelque nature que ce soit. Nous regardons à toi. À toi. Et par la foi, nous nous levons par rapport à notre situation. Et nous disons, ma vie n'est pas à Bethesda. Ma vie est sur la montagne de Morija, dans la présence de mon Dieu. Je ne veux plus vivre sur mon tapis. Je prends mon tapis en signe de victoire et je vais de l'avant. Que le Seigneur te donne sa puissance, qu'il te donne son esprit, qu'il te donne sa parole ce matin. À l'instant même, lève-toi et quitte Bethesda pour entrer dans la maison du Père. Que la puissance de Dieu vienne dans vos vies. Alléluia. Gardez cette parole dans votre cœur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Rendons gloire à Dieu, ça suffira.